le magazine des Nations Unies.
Le 12 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des enfants de la rue sous les thèmes égalité pour tous, accès aux services, protection et chemins innovants. Jeudi dernier, le réseau des éducateurs des enfants de la rue, Régère, fête ses 20 ans et lance un grand projet en faveur de cette catégorie d'enfants en RDC. Son coordonnateur est l'invité de ce dimanche. Volet humanitaire de la résolution 2409, le Conseil de sécurité préoccupé par la situation d'au moins 13,1 millions de Congolais, dont 7,7 millions souffrent d'insécurité alimentaire grave. Le MAGUN revient dans cette édition sur les décisions et recommandations contenues dans cette résolution à ce propos. En moyenne, 71% des ménages en RDC adoptent 3 pratiques familiales essentielles sur 5. C'est en tout cas la conclusion des résultats d'une enquête menée en 2015 par l'Université d'Harvard en collaboration avec l'UNICEF et le ministère de la Santé. Un atelier organisé par l'UNICEF à Kinshasa a servi de cadre de lancement officiel de cette étude. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce 314e numéro de MAGUN. Comme annoncé dans le sommaire, l'UNICEF a procédé mercredi dernier à Kinshasa au lancement officiel des résultats de l'enquête d'Harvard Opinion Research Program. Cette enquête, menée par l'Université d'Harvard en 2015, en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de la Santé, a porté sur les pratiques familiales essentielles sur les 11 anciennes provinces de la RDC. Elle révèle qu'une moyenne nationale de 71% des ménages ont adopté au moins 3 pratiques essentielles sur 5. L'enquête visait les parents d'enfants de moins de 5 ans. Les détails avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Les pratiques familiales essentielles signifient tout simplement les connaissances et les attitudes que toute famille congolaise devrait intérioriser et pratiquer pour la survie et le développement de l'enfant. Elles vont de l'allaitement maternel à l'utilisation de la moustiquaire, en passant par le lavage de mains, l'enregistrement à l'état civil et la vaccination. L'éducation et la santé restant les priorités des priorités, souligne l'enquête. Pour Madame Francine Kimanuka, spécialiste de santé UNICEF, les résultats de cette enquête sont encourageants, même si beaucoup reste encore à faire.
Très encourageant, car une moyenne nationale de 71% des ménages affirme avoir adopté au moins 3 pratiques familiales essentielles sur 5.
Ces résultats constituent des données précieuses, soutient-elle, pour les membres du gouvernement, les agences des Nations Unies, les ONG et même autres professionnels des médias. Madame Monique Elikele, secrétaire générale au plan, constate que la négligence de ces pratiques si simples coûte cher aux ménages.
Ça ne coûte rien pour les familles. Donner des lait à l'enfant, demander à afin de laver le maître, mais ça a un coût important si on les minimise. Il y a eu cette enquête dont les résultats vont nous aider à la révisitation de certaines stratégies.
Des recommandations sont attendues à l'issue de cet atelier.
Autre actualité, le Conseil de sécurité, préoccupé par la rapide détérioration de la situation humanitaire d'au moins 13,1 millions de Congolais. C'est en tout cas l'un des points de la résolution 2409 que développe ici Honoré Missenga Kalala.
Selon le Conseil de sécurité, l'aggravation de la situation humanitaire en RDC a atteint des proportions catastrophiques dans certaines parties du pays. Une situation inquiétante, caractérisée notamment par un très grand nombre de déplacés internes, environ 4,5 millions, ainsi que par 540 000 réfugiés présents. Face à ces tableaux, l'organe exécutif de l'ONU préconise la solution à 3 niveaux. D'abord, au niveau de l'accès humanitaire, le Conseil de sécurité a enjoint les parties d'autoriser et de faciliter la libre circulation du personnel, du matériel et des fournitures humanitaires dans de bonnes conditions de sécurité, sans entrave et sans délai. Cela implique notamment l'acheminement rapide de l'aide humanitaire vers les populations qui en ont besoin, en particulier les personnes déplacées sur l'ensemble du territoire congolais. Et le Conseil de sécurité insiste dans la résolution sur l'humanisme, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance de cette aide humanitaire. Deuxième niveau de solution, le Conseil de sécurité prie la MONUSCO pour sa part de renforcer sa collaboration avec les acteurs humanitaires et de rationaliser les mécanismes de coordination avec les organismes humanitaires afin d'assurer l'échange d'informations sur les risques en matière de protection de la population. Enfin, troisième et dernier niveau de solution à la crise humanitaire en RDC Congo, la résolution 2409 demande à tous les États membres de répondre généreusement aux appels humanitaires lancés par l'ONU en faveur de la RDC et de la région. Objectif, permettre aux organismes humanitaires des Nations Unies et les autres organisations internationales de disposer des fonds nécessaires et de répondre aux besoins de protection et d'assistance des déplacés, des rescapés des violences sexuelles et d'autres groupes vulnérables de la population.
Comme vous le savez, l'ONU a organisé vendredi dernier une conférence des donateurs pour financer les actions humanitaires en RDC. Le Royaume-Uni, l'un des pays participants à cette rencontre internationale, annonce l'octroi de 31 millions de dollars à titre d'augmentation de son aide à la réponse humanitaire en RDC. C'est la ministre britannique pour l'Afrique qui l'a annoncé jeudi dernier à Kinshasa au terme d'une mission en RDC. Madame Harriet Baldwin, qui s'est rendue à Kalemi et dans le Kasaï, juge la situation humanitaire choquante dans ce pays, avec des millions de personnes dans le besoin. Elle s'exprimait au micro de Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Lors de ma visite, j'ai personnellement touché du doigt les défis auxquels fait face la RDC. La situation humanitaire actuelle est choquante, avec des millions de personnes ayant désespérément besoin de vivre, d'eau, de médicaments et d'un endroit sécurisé pour vivre. Le Royaume-Uni est un principal bailleur de fonds de la RDC. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui une augmentation de 31 millions de dollars d'aide à la réponse humanitaire du Royaume-Uni, ce qui assurera à 390 000 personnes additionnelles l'accès à l'eau potable, à 240 000 personnes des services de santé essentiels et à 85 000 personnes une assistance permettant de satisfaire des besoins urgents en vivres et de base.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Malgré les programmes d'hygiène mis en œuvre par les humanitaires dans le cadre de la lutte contre le choléra, beaucoup de Congolais ne changent pas leur comportement face à la nécessité de se laver les mains avec le savon. Une des conclusions d'une étude menée par Sian White, une chercheuse de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, en collaboration avec l'ONG Action contre la faim, ACF. Une recherche circonscrite à Minova, localité du Nord Kivu, caractérisée par des épidémies presque annuelles du choléra. Le vendredi 6 avril dernier, après la présentation des résultats de son étude à Kinshasa, Sian White a répondu aux questions d'Honoré Missenga Kalala avec la traduction de Modeste Munganga qui a participé lui aussi à la même recherche.
Sian White, bonjour.
Bonjour.
Une recherche sur les déterminants de l'hygiène ou lavage de mains dans la lutte contre le choléra. Qu'est-ce qui a motivé cette recherche?
Comme vous le savez, la situation en RDC est unique et surtout à l'Est où toujours les cas répétitifs de choléra sont signalés et c'est connu à l'échelle mondiale. Cependant, je me suis dit que j'aimerais un peu faire une visite là-bas et comprendre pourquoi toujours il y a cette occurrence donc de choléra à l'Est. Et nous avons trouvé que la majorité de ce problème est lié à la contamination des eaux, surtout comme je fais une ronde le long du lac Kivu, où les gens, je rencontre que généralement ils sont déjà informés, donc de pratiques de lavage de mains, mais ils ne les font pas. Et c'est pourquoi j'ai mené cette étude pour comprendre qu'est-ce qui serait à la base de la non-pratique de lavage de mains.
Alors, quelles sont les principales conclusions auxquelles vous êtes arrivés?
L'étude en soi a voulu comprendre et les conclusions donc de cette étude est que de savoir les gens sont déjà informés, ils connaissent déjà, ils ont une connaissance en matière de lavage de mains, mais en général, il n'y a pas donc ce changement de comportement réel. Cependant, nos recommandations sont adressées donc aux acteurs humanitaires qui ont introduit ce système de promotion de lavage de mains pour qu'ils puissent faire un grand projet qui donne vraiment l'accès aux gens pour se laver les mains parce que nous avons rencontré, par exemple, comme on a été dans le cas des déplacés, les gens ont cette volonté de se laver mais ils n'ont pas où se laver, ils n'ont pas de dispositif pour se laver les mains et à cela, nous avons adressé cette recommandation pour qu'ils puissent favoriser ce lavage de mains parce que les gens, nous avons une connaissance, mais il y avait quand même quelque chose de paradoxe. Les gens savent, mais ils ne pratiquent pas pour qu'on remarque ce changement de comportement réel.
Comment pensez-vous que les résultats auxquels vous êtes parvenus peuvent être exploités pour améliorer les programmes de lavage des mains dans la lutte contre le choléra?
Le plus d'un choix vise à mettre les idées ensemble dans la conception des programmes d'aujourd'hui de la promotion du jeune. C'est pour dire que si lors des conceptions des programmes, il fallait que les acteurs principaux puissent arriver au niveau de la communauté, que les communautés aient accès à se procurer des dispositifs de lavage de mains qui sont moins coûteux, qui sont adaptés à leur niveau, au lieu de continuer toujours à les sensibiliser parce que nous avons rencontré que les gens sont déjà informés, ils sont déjà éduqués sur les gènes, mais qu'au niveau local ou bien au niveau communautaire, que les gens arrivent à se faire un dispositif de lavage de mains à leur niveau sans qu'il ne soit pas imposé quelque chose qu'ils ne doivent pas donc trouver à un coût là très élevé, que les communautés se sentent que ce qu'ils ont comme dispositif de lavage de mains est vraiment agréable pour eux.
Are beautiful for them to wash their hands.
À quand les résultats définitifs?
Le pourquoi de ces présentations de résultats partiels était d'abord de le partager le plus tôt possible parce que la recherche était menée dans la lutte de cette explosion de choléra. J'ai vu si j'ai gardé ça jusqu'à ce que je donne le résultat définitif, ça aurait déjà comme un retard. Mais au cours de ces 6 mois qui viennent, je suis en train de compiler même les interviews que j'avais menées avec le répondant. Dès que j'aurai déjà compilé tout, je vais envoyer dans un site où je veux partager aux partenaires qui étaient impliqués pour que tout le monde ait accès et comprendre donc l'intégralité de cette recherche. Ces résultats, je voulais les donner parce que bon nombre de gens font de recherches et après ils vont garder ça. Mais je voulais donner ça que les acteurs puissent déjà voir ce qu'ils doivent faire au premier état de cette présentation de ce résultat.
Vous avez fait des recommandations. Ces recommandations sont adressées à la communauté internationale et aux bailleurs. Qu'est-ce que vous leur demandez concrètement?
J'ai fait ces recommandations pour que ces bailleurs de fonds prennent le risque de donner un financement à long terme qui puisse quand même répondre aux ripostes pendant la période de cette crise et après cette période. Autre chose, je parlais de la communauté humanitaire. Lorsqu'ils aussi ils engagent des expatriés, on appelle tel, on l'engage comme expert qui va répondre à ce problème. Après quelques mois, il a déjà fait son étude, il n'a pas encore terminé. On dit que son contrat est déjà terminé. Il faut vraiment avoir le mesure là de donner un contrat à un expatrié qui a fait son étude et qu'il termine pour voir le résultat. Aussi, quand je me suis adressé au gouvernement, le gouvernement est le responsable principal donc de sa population. Il doit faire aussi son effort pour s'impliquer afin que sa population bénéficie de son soutien. Parce que, à part ces humanitaires, le gouvernement doit aussi quand même montrer qu'il est responsable principal.
Merci.
Et nous ouvrons cette page nouvelle, en bref, par le volet développement. La RDC compte désormais 150 agents vétérinaires publics formés et capables d'intervenir dans les urgences et l'épidémie de la grippe aviaire. Une information de la FAO, bureau de Kinshasa, livrée mercredi le 11 avril à la conférence des Nations Unies. Ces agents sont le produit d'une série de formations organisées successivement à Goma, Lubumbashi et Kisangani. La dernière série de formations est celle de Kisangani dans la province de la Tshopo en fin mars 2018. Elle a regroupé 30 vétérinaires venus des provinces de la Mongala, du Bazuélé, de la Tshopo et du Maniema. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'action mondiale pour la sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et centrale. Un programme mis en œuvre par la FAO et financé par l'Agence des États-Unis pour le développement USAID en collaboration avec le ministère congolais de la pêche et élevage. La section protection de l'enfant de la MONUSCO a vérifié 807 violations graves commises à l'encontre des enfants durant le premier trimestre 2018. Deux tiers des incidents se sont produits dans la province du Nord Kivu, suivis de l'Ituri, de la région des Kasaï et du Sud Kivu. Toujours selon cette analyse, près de 70% de ces violations concernent le recrutement et l'utilisation des enfants par des groupes et milices armées. Les principaux recruteurs sont les Mai Mai Mazembe, Kamuina Simpou et Nyatura. Et nous allons rester toujours dans la section protection de l'enfant pour signaler cet atelier de formation sur les procédures opérationnelles standards relatives à l'évaluation de l'âge, organisée à Kitona dans le Congo central du 26 mars au 1er avril. Cette formation, organisée en collaboration avec le Bureau de la réforme du secteur de sécurité, l'UNICEF et l'UEPNDDR, visait le renforcement des capacités des 30 agents des FARDC, de la PNC, d'ONG locales impliquées dans la protection de l'enfant, dans la lutte contre le recrutement et l'utilisation l'éducation des enfants. Une formation similaire se tiendra dans les prochains jours à Chiquiapa, dans le Kasaï.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 12 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des enfants de la rue. À Kinshasa, le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, Régère, a fait d'une pierre deux coups en célébrant son 20e anniversaire et en lançant un grand projet de renforcement du système de protection communautaire en faveur des enfants et jeunes défavorisés. Rémi Mafou, coordonnateur du réseau, est notre invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Rémi Mafou, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des enfants de la rue. Comment est-ce qu'à votre niveau ici, vous avez fêté cette journée?
Au Régère, en principe, nous ne l'avons pas fêté, mais ça a été pour nous une réflexion. Une réflexion qu'on a été, nous avons mis tant de gens dans la salle pour les interpeller sur cette journée. Qu'est-ce que nous devons faire dans notre façon de faire des choses? Est-ce que nous l'avons bien fait? Une interpellation, et c'est pour ça que cette journée est toujours le 12 avril. Et ça tombe justement, c'est une journée des enfants de la rue. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une journée des enfants de la rue?
Vous avez dit tout à l'heure dans la salle que cette journée coïncide avec vos 20 ans d'existence. Quelle idée vous avez sur ces 20 ans que vous avez passés?
C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est moi le Régère. Nous, une occasion que le Régère doit se mettre autour d'une table pour réfléchir. Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour avoir encore 20 ans de plus, pour avoir 40 ans? Mais quelles sont les démarches que nous devons faire? C'est pour nous aujourd'hui, c'est 20 ans de questionnement, 20 ans de questionnement sur notre façon de faire, 20 ans d'évaluation de ce que nous avons déjà fait pendant 20 ans, et 20 ans après, quelles sont les stratégies que nous devons mettre à faire?
C'est la remise en question de votre travail.
Voilà, c'est la remise en question de notre travail que vous venez de dire, et ça, ça doit être une préoccupation pour le Régère et tous les membres du Régère, Régère tant que coordination et Régère tant que organisation avec une centaine d'organisations. Dans ce projet, ce qui est intéressant, il y a le renforcement des capacités de la famille, faire de la famille de père éducateur et travailler avec nous. Et dans ce projet aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est tout, on va travailler sur l'insertion et la formation professionnelle. Quelle est la réponse qu'on doit donner à tous ces jeunes qui sont dans la rue, qui doivent aller à l'école pour apprendre un métier?
Et le père, dans son homélie, a dit que la place de l'enfant, c'est la famille. Et vous avez tout à l'heure parlé de la famille. Comment vous allez, dans le cadre de votre projet, collaborer avec la famille?
Pour nous, la finalité, c'est vraiment la réunification familiale. Nous, on n'appelle même pas un retour, c'est vraiment une réunification. L'enfant qui se trouve dans la rue, dans une situation qui est confuse, nous devons travailler avec l'enfant et voir sa famille, et faire la médiation pour que l'enfant rentre dans sa famille. Si l'enfant ne peut pas rester dans sa propre famille, on a mis en place toutes les alternatives dans une famille d'accueil, chez un oncle, chez une tante, mais la place de l'enfant, c'est dans la famille. Et c'est pour ça que nous insistons aussi dans le cadre de ce projet. Comment renforcer cette famille-là qui devienne forte et qui continue à donner ce qu'il avait l'habitude de donner?
C'est un grand projet. Et vous travaillez avec quel partenaire?
Vraiment, c'est un grand projet. Nous travaillons avec trois partenaires.
Il y a
le médecin du monde Belgique qui pour le moment, c'est la toute première fois que c'est ça, qui partage le bureau avec le Régère et qui vont prendre tout ce qui est soins médicaux, les santé de la production, qui vont accompagner le Régère dans un pôle que le Régère a. Le pôle santé et travail de rue. Et deux, nous avons notre partenaire, sont des Français, apprentis d'Auteuil. C'est une grande organisation française qui est à Paris, qui a une bonne cinquantaine de maisons et avec plus de 10 000 enfants. Et ils ont une spécialité, ça fait 100 ans qu'ils existent, ils ont une spécialité d'accompagner les Régères dans la partie protection de l'enfant. Et troisième partenaire, c'est la Fédération québécoise. La Fédération québécoise des familles. La Fédération québécoise des familles a des maisons de familles au Québec où ils travaillent avec les familles, accompagnent les familles pour que les familles deviennent fortes et que les familles continuent à donner la réponse qu'ils ont l'habitude de donner. Et là, tout le travail que nous allons faire au niveau des Régères, dans le pôle famille et communauté, et cette Fédération québécoise, tout au long de 4 ans de projet, ils vont accompagner le Régère. Donc, pour dire que dans le cadre de ce projet, c'est vraiment une révolution tranquille.
Monsieur le coordonnateur, Radio Okapi vous remercie.
Merci beaucoup, Radio Okapi. Restez toujours Radio Okapi.
Revenons sur la visite en RDC du haut-commissaire pour les réfugiés Philippe Ograndi, particulièrement à l'étape de Goma, en Nord-Kivu, où dimanche dernier, il a rencontré au camp de transit du HCR réfugiés et déplacés internes. C'est un reportage signé Sifa Maguru.
L'insécurité en milieu rural qui empêche les réfugiés à rejoindre le point de rapatriement, difficulté de rapatrier les enfants non accompagnés et orphelins, le manque d'assistance et une longue procédure d'intégration au Rwanda, un calvaire, explique Gatarina Gakuru, cette femme réfugiée qui parle devant les hauts commissaires. Un autre groupe de déplacés internes venus de Kichanga et Nyanzale explique ces difficultés, notamment les manques d'assistance et d'abri, l'accès difficile à la terre et l'insécurité en général. Accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, le haut-commissaire a garanti à ces personnes son implication. Philippe Ograndi.
J'ai eu l'occasion au sud Kivu de voir des villages qui hébergent des réfugiés burundais. Ici à Goma, nous avons visité un centre de transit pour les Rwandais. Et en général, nous avons aussi vu ensemble la question des déplacés internes. Le HCR, bien sûr, n'est pas le seul acteur. C'est le gouvernement qui a la leadership dans la réponse. Mais le HCR est là pour aider à trouver des solutions. Je dis bien des solutions, c'est ce que le chef de l'État m'a dit avant-hier. Il m'a dit qu'il faut trouver des solutions à ce déplacement interne.
Après sa visite au sud et nord Kivu, Philippe Ograndi s'est dirigé au Rwanda. Goma, Sifamagou. Guru Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
En quoi consiste concrètement l'appui de la force de la MONUSCO au FRDC dans les opérations militaires dans le territoire de Djougou en Ituri? Question d'une consoeur de Bounia. Et voilà la réponse du porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO, le commandant Adil Esserir. Suivez.
Je suis Charlie Omba Lohahe, journaliste de la radio-télévision Salama Bounia. J'ai juste une petite préoccupation. Depuis un certain temps, il y a une accalmie observée à territoire d'Njougou après le lancement de l'opération Tunapenda Salama Njougou menée par les militaires FRDC. Et dans toutes les interviews que nous avons réalisées avec les porte-parole de militaires FRDC à Ituri, nulle part il a dit avec l'appui de la MONUSCO. Maintenant, j'aimerais juste savoir l'apport de la MONUSCO dans cette opération menée par les FRDC à territoire d'Njougou. Merci.
S'agissant de l'appui de la MONUSCO au FRDC, elle a été dictée par les résolutions précédentes et confirmée par la résolution 2409. La résolution nous demande clairement d'apporter notre soutien au FRDC dans les opérations avec une condition qui c'est le respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme lors de l'octroi d'un support ou d'un soutien à des forces non onusiennes. Donc dans le cadre de Djougou, je dis qu'on accorde notre appui, notre soutien, sous forme de soutien logistique, sous forme de renseignement, un appui combat aussi. Donc depuis le 4 avril, on mène une opération conjointement et on appuie les efforts des FRDC, surtout dans la zone, dans les villages entre Gbi, Djo, du littoral Lac-Albert. Il y a une opération Safisha des FRDC qu'on appuie aussi dans Aveba et Oromo. Donc, comme je dis, c'est un appui qui est donné pas seulement en Ituri, mais aussi aux opérations en Bini, en Okivu et Sud-Kivu, sous forme d'appui feu, sous forme d'appui renseignement, sous forme de rations alimentaires, carburant. Donc une panoplie de soutien qu'on donne au FRDC.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Nelly Fallon Kabena, on m'appelle aussi Steffi Graf Larissa. Je suis mariée à Kabungie Bao, Dieu merci, et je suis mère de famille. Comme cursus scolaire, j'ai terminé en communication sociale option journalisme et je travaille à Radio Okapi depuis 2005. Donc je fais le qui, quoi, comment, pourquoi, où, quand, c'est-à-dire recouper les informations, récolter les informations dans les provinces de l'ancien Katanga. Je les analyse, je les produis pour les diffuser selon l'angle qui a été prévu par la rédaction. Je suis dans les éditions des journaux en français, en swahili et en chiluba. Et je réalise aussi des éléments pour les émissions interactives qui passent souvent sur la radio Okapi, beaucoup plus dans Libota ou encore 100% jeune. Dans bien de cas, j'accompagne les équipes de la MONUSCO ou encore les équipes des agences onusiennes dans les missions de terrain pour le compte toujours de la rédaction. Mon parcours professionnel avant Radio Okapi, je veux dire que je suis journaliste depuis ma plus belle enfance. Mon plateau à moi, c'était mon miroir ou encore c'est devant mon père ou devant mes amis. Je tirais n'importe quel livre de la bibliothèque familiale que je lisais tout haut et en ajoutant en fait quelques mots pour faire la speak screen. J'aimais beaucoup la télé parce que j'ai voulu être journaliste de la télé comme Anne Sinclair. Puis un peu, j'ai divagué avec les études en biochimie pour faire médecin pédiatre. Mais dans l'attente des résultats des examens d'État, c'est le journalisme qui l'a emporté parce qu'un jour, alors que je travaillais dans une agence de design comme secrétaire de rédaction, un rédacteur en chef de la radio Kassai Horizon à cette époque, KHRT, est venu me proposer d'assister dans son émission pour jeunes. Après cette émission, il m'a laissé présenter le journal. Après le journal, il m'a demandé de prester à la radio-télévision Kassai Horizon KHRT. Et c'était là à mon édito. Au-delà de ça, je me suis dit que je ne pouvais pas terminer mes études avec juste un diplôme d'État. J'ai voulu continuer à l'IFASIC au niveau de Kinshasa. Mais avec ma famille qui est restée très loin, elle m'a proposé de rentrer à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, j'ai été donc à l'Institut interdiocésain Monseigneur Mondoloa où j'ai décroché mon diplôme de communication en option journalisme. Alors, bien qu'étant à l'université, j'ai œuvré dans plusieurs maisons de radio et télévision. J'ai été à Mosaïque Télévision, j'ai été à la radio Tam Tam, puis à la RTNC aussi. J'ai passé dans certaines émissions culturelles. La réponse à la radio Capi est venue vers décembre 2004, quand je revenais d'un forum pour étudiants catholiques, c'est le forum de MIEC, et c'était à l'époque encore un plus 4, et donc nous avons enrichi encore nos expériences avec tous les étudiants de la RDC. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à tous ces étudiants parce que je garde encore vos adresses, et depuis, je vous sers comme journaliste reporter. Mes préférences? Je sais que c'est très complexe, mais je ne suis pas quelqu'un qui met l'accent sur la nourriture. Je dors pour un fruit, un thé ou encore un pain sec. Et je veux dire que la dureté de ma vie a déjà abîmé mon estomac. En sport, j'aime le tennis et la natation. Voilà le nom de Steffi Graf parce que c'était mon idole. Et en musique, c'est la musique française qui m'emporte. Jeune génération comme Génération Goldman. Et je suis une femme de culture. Le théâtre est mon favori. Et mes activités paroissiales, je ne rate pas. En perspective, je me vois travailler dans les loges des Nations Unies comme interprète en espagnol. Mais en évoluant, je me suis dit, pourquoi pas. La femme, c'est complexe, la femme, c'est un infini. Mes goûts aussi sont d'une infinité énorme. Et donc, je me vois comme consultante, je me vois comme conférencière, je me vois aussi comme documentariste, parce que j'aime bien le domaine du cinéma et j'adore aider les gens. Surtout avec l'expérience de terrain avec les agences onusiennes, pas plus tard que ce mois, j'ai été à Puerto où j'ai été en contact avec les déplacés. Et donc, cette expérience m'a transformée, a transformé toute ma vie. Je me suis dit, c'est mieux que je fasse les documentaires de mon pays et si les cinémas m'ouvrent bien les bras, et voilà. Vous avez une candidate avec vous. Dieu pourvoira. Bye bye, je vous aime bien.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et voilà quelques rendez-vous à noter dans vos calepins. Le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Le 17 avril, la journée mondiale de l'hémophilie. Et le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. Et voilà, c'est de la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama, à la mise en onde Polydor Basunga, au reportage et à la réalisation Noremi Senga Kalala, au reportage également et coordination Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À bientôt sur Radio Capi. Ciao.